Bah écoute, merci Jean-Michel et Roger de m'inviter ici à parler avec vous. Donc, grosso modo, la journée va se faire en deux temps. Là, ce matin, une partie de la matinée au moins, je vais vous présenter une recherche en cours sur donc l'intitulé là pour aujourd'hui la production auriculaire des arts sonores entre critique et fétichisme, qui est un travail que j'ai déjà commencé il y a quelques années maintenant. Certaines étapes ont été publiées. Mais bon, c'est quelque chose que je poursuis. Et vu que la demande était un petit peu dans le cadre de ce premier module avec des invités concernant de faire un peu le point sur, notamment sur l'écoute, je trouvais ça intéressant d'aborder un petit peu ce que produit l'écoute dans les pratiques des arts sonores. Donc voilà, une première partie de la matinée où je vais vous présenter un petit peu ces recherches sur lesquelles après on pourra discuter et puis après on passera voir vos travaux, etc. Et quelque chose de plus informel. La production donc auriculaire des arts sonores, entre critique et fétichisme, j'ai appelé ça de cette manière-là, il faut que je m'explique un petit peu. L'écoute, je suis parti un petit peu de ce principe-là. L'écoute dans l'histoire des musiques expérimentales et des arts sonores se voit souvent ajouter, pour la préciser, pour la spécifier, un adjectif qui vient précisément souligner la posture à adopter. Donc un certain nombre de qualificatifs à chaque fois qui s'adjoignent, hein, des épithètes, hein, pour caractériser la singularité de l'expérience que proposent les artistes, que proposent les musiciens, ou, le cas échéant, plutôt la posture requise pour un accès à l'œuvre proposée. Alors, ces qualificatifs, vous les connaissez sans doute. On l'appelle réduite dans certains cas, cette écoute. On peut l'appeler aussi ouverte. On peut l'appeler, d'autres artistes l'appellent aussi profonde, deep listening. Immersive, acousmatique, attentive, careful listening, ou encore active, tout simplement. On reviendra peut-être sur le terme actif qui est un peu à part, je trouve, hein, puisqu'il marque une hiérarchie, comme s'il pouvait y avoir une écoute passive, par exemple. Mais bon. Alors, tous ces noms, nécessairement, ne s'équivalent pas, quoi. Il n'y a pas des correspondances immédiates entre ces différents concepts, hein. Ils ont été théorisés par différents musiciens, artistes, théoriciens. Mais en tout cas, il s'agit toujours de spécifier un rapport renouvelé à la perception du monde sonore. Alors, ce que je voudrais faire ce matin avec vous, là, c'est justement aborder quelques-unes de ces différentes formes d'écoute prises dans l'histoire des musiques expérimentales et des arts sonores, en essayant de considérer à chaque fois leur formulation discursive. Là, c'est là où les écrits des artistes, par exemple, sont extrêmement intéressants dans la recherche. Comment, finalement, les artistes et les musiciens conceptualisent leur écoute. Et, pas simplement leur formulation discursive, mais aussi considérer leur mise en pratique, ce que ça donne dans les œuvres. Et ainsi, dans le croisement des unes et des autres, des formulations et des pratiques, tenter de voir ce que ces écoutes peuvent nous dire de leurs enjeux. Mais aussi, on va le voir, les deux sont difficilement séparables en réalité, ce qu'elles peuvent nous dire de leurs enjeux, mais aussi des idéologies et des croyances qui peuvent gouverner les pratiques, voire. Alors ça, c'est plutôt une question qu'on va essayer de voir ensemble, voir les permettre, les pratiques. Dans quelle mesure l'idéologie de l'écoute, la croyance à l'œuvre à travers certaines formulations d'écoute, n'intervient aussi que pour autoriser une mise en pratique. Alors, la première chose qui peut apparaître comme ça de manière directe, et que ce rapport renouvelé à l'écoute, tel qu'il est mobilisé dans les arts sonores, parce qu'il est différencié, parce qu'il redonne à l'écoute d'une certaine manière sa dimension expérientielle, voire sa dimension expérimentale, eh bien, on pourrait dire que cette écoute aurait une portée critique. Critique parce qu'elle se pose dans un écart même avec une écoute si souvent devenue une non-écoute. Une écoute qu'on pourrait dire apparente, qui ne serait finalement que le témoin des désubjectivations, là, pour le dire un concept qu'on va retrouver chez Agamben, je vais y revenir, les désubjectivations à l'œuvre dans nos sociétés contemporaines, où l'écoute serait devenue une non-écoute. Donc elle serait critique déjà par rapport à ça, puisqu'elle nous tend à nous donner une autre approche de l'écoute. Mais en même temps, je vais aborder les choses un peu de manière dialectique, ce ne serait qu'un pan, finalement, de ce que produit l'écoute singulière des arts sonores. La production auriculaire concernerait également un autre phénomène qui irait de pair avec cette dimension critique, qui est ce que j'appelle le fétiche, la dimension fétichiste. Et donc, ce que je voudrais essayer d'interroger, là, à travers ces écoutes, c'est la relation, finalement, entre ces deux aspects, entre l'apparition d'une dimension critique, comparée ou en écart même avec la non-écoute, et puis une dimension fétichiste, qui est peut-être irréductible à la dimension critique elle-même. Alors, pour commencer, avant de rentrer un peu dans les concepts, je vais faire un peu un panorama rapide de différentes postures d'écoute dans l'histoire, certaines que vous connaissez sans doute déjà très bien, avec en premier lieu l'écoute dite réduite, conceptualisée par Pierre Schaeffer dans les années 50. Donc arrive avant, la conceptualisation arrive après la mise en pratique, d'une certaine manière, de l'écoute réduite. Alors, dans la pensée schaefferienne, l'écoute réduite s'articule avec deux autres notions qui sont l'acousmatique et l'objet sonore. Alors, je ne vais pas développer trop ces trois concepts, mais on peut rappeler qu'en musique concrète, écouter de manière acousmatique un son, lequel dès lors tend à devenir un objet sonore, c'est l'écoute acousmatique qui produit l'objet sonore d'une certaine manière, eh bien, écouter acousmatiquement un son consiste à l'écouter sans tenir compte de la source. Alors, le terme acousmatique, vous le savez sans doute, renvoie au rituel de Pythagore, hein, qui donnait dans la Grèce antique ses cours derrière un voile. Et les étudiants ne pouvant voir le maître, eh bien, se concentraient sur la seule parole. C'est quelque chose qui est toujours actuel. Hein. Plus récemment, il y a le théoricien, le philosophe Mladen Dollar, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « La voix et rien d'autre », où il reconceptualise, il remet un petit peu à l'honneur ce concept d'écoute acousmatique, qui apporte selon lui, qui maintient selon lui une sorte de pouvoir mystérieux qui vient hanter. Hein. La voix acousmatique, pour Dollar, c'est cette voix omniprésente et omnipotente, hein, qui a été d'ailleurs si souvent utilisé dans l'histoire du cinéma. Je pense à Docteur Mabuse, par exemple, de Fritz Lang, ce genre de film où il y a cette voix comme ça qui surgit, cette voix off qui a été aussi théorisée par Chion et que reprend la Dollar. Sauf que Dollar nous dit aussi que cette voix, elle n'est pas simplement omniprésente par sa dimension acousmatique, elle est omniprésente par son utilisation elle-même, au sens où, finalement, la voix acousmatique, c'est celle dont nous faisons quotidiennement l'expérience à travers le téléphone, nos communications téléphoniques, à la radio, etc., elle est utilisée même dans les médias audiovisuels. Et dès lors, selon lui, elle perdrait un petit peu de son pouvoir, mais je ne sais pas s'il s'agit tant d'une perte de pouvoir qu'une incorporation de l'expérience acousmatique et dès lors de son pouvoir même. Alors, pour revenir à Schaeffer, dans l'écoute réduite, il s'agirait donc de faire abstraction de toute référence événementielle participant habituellement de l'écoute pour se concentrer sur les qualités du son elle-même. Aussi, le compositeur, théoricien, Schaeffer entend mettre entre parenthèses tout a priori culturel
tout un fléchissement de l'écoute par des données extérieures au son lui-même, afin de favoriser un certain accès immédiat aux matériaux sonores. Immédiat et en même temps qui nécessite un processus. L'écoute réduite n'est pas une écoute naturelle, me dit-il. Je vous cite Schaeffer, qui traduit ce que je viens de dire. Donc on trouve ça dans le traité des objets sonores. Oubliant délibérément toute référence à des causes instrumentales ou à des significations musicales préexistantes, nous cherchons alors à nous consacrer entièrement et exclusivement à l'écoute, à surprendre ainsi les cheminements instinctifs qui mènent du pur sonore au pur musical. Telle est la suggestion de l'acousmatique, nier l'instrument et le conditionnement culturel. Il s'agit de nier les deux. Nier l'instrument et le conditionnement culturel, mettre face à nous le sonore et son possible musical. Il m'est possible, entre guillemets. Alors, je vous fais écouter un petit extrait d'une œuvre qui mobilise l'écoute acousmatique. Il s'agit de l'étude aux casseroles, dite pathétique, une des premières études de Schaeffer. En entier, c'est un classique. Il y a beaucoup de sons qui tournent d'ailleurs dans cette étude aux casseroles. On y reviendra, ça peut avoir son importance par rapport à ce que je vais dire ensuite. Donc, il importe peu dans la composition concrète de savoir si le son utilisé est une casserole, en l'occurrence, même s'il n'y a pas de casserole, une ustensile de cuisine utilisée dans cette pièce, une porte, une locomotive ou un violon. Hein, la musique concrète n'est pas une question de source sonore, nous dit Michel Chian. Au contraire, une telle association altérerait l'écoute recherchée. Donc là, il faut considérer cette écoute en digne héritière de la phénoménologie ursalienne, dont se réclame Schaeffer, où l'écoute réduite, telle qu'il l'a définie, donc Schaeffer, consiste en une discipline de l'écoute, c'est vraiment en ce sens-là, une discipline de l'écoute qui en appelle à l'époquée. L'époquée, c'est ce concept qui, chez les sceptiques, traduit la suspension du jugement, ou plus précisément la suspension de l'assentiment. Néanmoins, cette écoute ne relèverait pas pour autant de ce qu'on pourrait appeler un essentialisme phénoménologique. Ça, c'est une critique qu'on retrouve, par exemple, qui a été formulée récemment à l'égard de Schaeffer par le théoricien américain Seth Kim Cohen. Peut-être que vous connaissez son livre « In the Blink of an Ear » qui est sorti en 2009 et qui attaque un peu Schaeffer en nous disant que l'écoute acousmatique implique, selon lui, une réception vierge, naïve de l'auditif. Alors que c'est plus complexe que ça.
au sens où, et Schaeffer est très clair d'ailleurs dans ses écrits, je le cite, il ne s'agit nullement d'un retour à la nature, rien ne nous est plus naturel que d'obéir à un conditionnement. Il s'agit d'un effort antinaturel, d'où la discipline, hein. Il s'agit d'un effort antinaturel pour apercevoir ce qui précédemment déterminait la conscience à son insu. Donc, d'une certaine manière, l'écoute réduite ne saurait être qu'une écoute active. Toujours est-il, et ça c'est ce que repère aussi Seth Cohen, et c'est ce que énonce également explicitement Pierre Schaeffer, une telle écoute se coupe volontairement de tout horizon social, de tout horizon culturel et historique dans l'approche des sons qu'elle entend mettre en œuvre. Bien que se jouant là de manière lucide, on va y revenir, des possibilités offertes par la reproductibilité technique. Donc il y aurait ces deux, presque, c'est presque paradoxal, quoi, une conduite de l'écoute en termes de discipline qui prend en compte la technologie qui permet cette écoute et en même temps qui cherche à dégager cette écoute de tout horizon culturel et donc dès lors aussi technologique. Alors, deuxième écoute qui apparaît au même, qui est conceptualisée à peu près au même moment, hein, toutes ces écoutes là que je vais citer pour commencer, c'est presque des idéotypes au sens de Weber. C'est des figures comme on va retrouver, à chaque fois je cite les maîtres fondateurs d'une certaine manière, mais c'est des écoutes qui sont mobilisées encore aujourd'hui par les artistes. Deuxième type d'écoute, l'écoute ouverte, qui est conceptualisée là par John Cage. Chez Cage, la mise à distance des dimensions culturelles et sociales des événements sonores suit un tout autre cheminement que chez Schaeffer. Donc c'est une série d'expériences qu'il mène au début des années 50, que vous connaissez, la célèbre, quand il rentre dans la célèbre histoire légende, quand il rentre dans la chambre anéchoïde, qui va le conduire ensuite, deux ans plus tard, à la création de 4 minutes 33, eh bien, conduit le compositeur, à l'époque déjà imprégné de philosophie orientale, à une conception du sonore où le silence ne s'oppose plus au bruit, l'un et l'autre deviennent presque synonymes, et où les sons se doivent d'être éprouvés pour eux-mêmes. Cage opère alors ce qu'il appelle son tournant psychologique. C'est une expérience extrêmement forte chez lui. Il en parle en ces termes, dans Silence, je vous le cite, « Ce tournant est psychologique et semble au premier abord constituer un abandon de tout ce qui est propre à l'humain. Pour un musicien, l'abandon de la musique. » On peut abandonner le désir de contrôler le son, laver son esprit de la musique et se mettre à découvrir des moyens pour que les sons soient eux-mêmes plutôt que les véhicules de théorie et d'expression toutes faites de sentiments humains. Donc la volonté, la discipline mise en œuvre là, par John Cage vise à tenter d'avoir l'expérience, de faire l'expérience des sons pour eux-mêmes, dégagés de toute sphère culturelle, sociale, historique, de nouveau. Donc il s'agit d'ouvrir l'écoute pour Cage. Mais aussi en premier lieu de s'ouvrir à l'écoute, hein, de se placer finalement en tant que musicien comme un auditeur tout ouïe à la rumeur du monde afin d'entamer dans ce rapport un processus de subjectivation singulier qui vise chez Cage le retrait de l'ego. Et toutes ces compositions, hein, quand on regarde tout le corpus des œuvres de Cage, c'est toujours ça, hein, c'est mener finalement l'interprète et le public dans ce processus de subjectivation qui vise le retrait de l'ego. Alors, pour ce faire, Cage va utiliser un certain nombre de techniques, et principalement, bien entendu, le recours au hasard, qui lui permet d'accéder à un royaume du sonore, dégagé là des goûts et des habitudes du compositeur, de l'interprète. En somme, un monde où l'activité des hommes ne ferait plus obstruction, comme il le dit, à l'activité des sons. Ainsi, les pièces de Cage, en tout cas dès le début des années 50, ont pour but d'ouvrir l'écoute, l'ouvrir, ça c'est ce que souligne Daniel Charles, à une réceptivité, je le cite, à l'événement qui précède toute position d'un principe, de démentir toute opposition hâtive entre l'activité créatrice et la perception, donc l'écoute, qui en recueille le résultat.
Alors, chez Cage, une telle approche, une telle discipline de l'écoute, eh bien, se révèle même consubstantielle de l'expérimentation telle qu'il la définit. Et c'est finalement une certaine esthétique de l'indifférence qui se dessine derrière cette ouverture sensible permise par l'abandon des inclinaisons subjectives. C'est l'abandon des inclinaisons subjectives qui mène à un processus de subjectivation. Mais aussi, bien entendu, l'abandon des a priori culturels et des déterminations sociales dans l'écoute. Alors, je parle d'indifférence, mais en même temps, une telle esthétique se formule chez Cage dans un rapport inverse à ce qu'elle peut être, par exemple, chez Duchamp. Ça, c'est quelque chose qu'observe de manière tout à fait pertinente Morton Feldman. Je le cite, la différence cruciale entre Duchamp et Cage, et on sait combien, en tout cas Cage se réclamait de Duchamp, la différence cruciale entre Duchamp et Cage est que Duchamp a libéré l'esprit de l'œil, alors que Cage a libéré ses oreilles de l'esprit. Deux processus différents. Je vous fais écouter une petite pièce de Cage. Il s'agit de Cambridge Music de 1960. Qui est une pièce pour petits sons amplifiés, comme c'est précisé dans la partition. Et le titre, Cartridge, renvoie à la cellule, Cartridge c'est la cartouche, c'est la cellule des platines de disque dans laquelle on passe l'aiguille qui va venir lire le sillon. Et la partition invite tout simplement les interprètes à se servir de cellules de pick-up comme de microphones en plaçant des petits objets à l'endroit où normalement se loge l'aiguille. Ça peut être un curpi, par exemple, tel qu'il l'indique dans la partition, des allumettes, des plumes, des câbles, toutes sortes d'objets. Et par l'amplification, dès lors, ces petits sons sont magnifiés, hein, comme si on les écoutait un peu à la loupe. Ça produit des monstres sonores, de la même manière que Roland Barthes, par exemple, pouvait théoriser l'advenue de monstres dans les planches de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui par l'agrandissement des gravures faisait apparaître le moindre scarabée comme un monstre terrifiant ou le moindre flocon de neige comme une fleur magnifique. Donc là, il s'agit d'un enregistrement réalisé en 68 par John Cage lui-même et David Tudor, et qui est en réalité la superposition de quatre performances différentes de Cartridge Music. Thank you. écouter en entier là non plus. Hein. L'interprétation dure une vingtaine de minutes pour tenir sur une face de 33 tours. J'ai oublié déjà de vous montrer un petit peu des images là, que j'ai réunies. Donc là, vous voyez, pour l'écoute réduite, c'est pas Pierre Schaeffer, mais Pierre-Henri avec un phonogène, qui sont ces instruments, là aussi des techniques hein, qui permettent l'activation de l'écoute réduite. Là, la fameuse cabane à Woodstock, hein, où a eu lieu la première performance de 4 minutes 33. Alors, dans cette amplification des petits sons, ça traduit une sorte de fascination pour les sons faibles. Là, porté à un volume extrêmement important, et ce volume d'ailleurs était tout à fait significatif hein, dans les performances de Cage. Il en parle en ces termes. Mettre un volume très fort, jusqu'à assourdir les auditeurs, avait pour but justement de conduire cette discipline d'écoute, hein, de forcer d'une certaine manière l'écoute à entrer dans un processus de désubjectivation pour conduire à son propre processus de subjectivation. Ce qui va créer d'ailleurs des problèmes, quelquefois, avec certains interprètes. Ça va être le cas notamment avec l'Orchestre Philharmonique de New York, qui va refuser d'interpréter ou qui va détruire les micros de contact que pouvait utiliser Cage dans certaines de ses pièces. Donc, amplifier le son, et derrière cette amplification des petits sons, c'est donc une sorte de fascination pour les sons faibles, qui, et ça c'est ce que souligne notamment Douglas Kahn, non pas spécifiquement à l'endroit de Cage, mais plus généralement concernant les artistes fluxus, qui s'inscrivent véritablement dans le sillage de Cage, eh bien, la fascination pour les sons faibles, ou ceux, je le cite, évoluant de part et d'autre du seuil de l'audibilité, contient une évidente dimension fétichiste. On va retrouver donc chez ces artistes. Et qu'on va retrouver au-delà de fluxus, finalement, dans tout le mouvement qui apparaît un peu au même moment, qui relève de ce qu'on appelle les live electronics, ou des pratiques donc électroniques en live où on retrouve un usage extrêmement important des micro-contacts hein. Vous savez, ces micro-contacts, ce sont ces petits piezo qui, à la différence des micros traditionnels, ne sont pas une membrane qui capte les variations de la pression de l'air, mais qui capte là la vibration d'un support solide hein, et qui vont servir comme ça pour ausculter tout un tas de matériaux hein. Les usages du micro de contact par David Tudor, et ça va être suivi ensuite par Sonic Arts Union, Musica Electronica Viva, AMM, tous ces groupes, il s'agit toujours d'aller ausculter les matériaux sonores, les petits sons, etc. Alors, je poursuis un petit peu ce rapide inventaire des formes d'écoute avec une écoute qui vise l'expérience de limite. C'est déjà le cas un petit peu chez Cage, mais de manière un petit peu différente. Et là, l'un de ses principaux théoriciens, l'un de ses premiers en tout cas théoriciens, n'est autre que Lamont et Young. Donc c'est notamment quelque chose qu'on observe dès le début des années 60, en réalité un petit peu avant. Là je pense au beau livre de Brandon Joseph, qui fait un petit à travers la figure de Tony Conrad, qui refait tout le processus de ses premières composition de Lamont et Young, où en fait il y a tout un tas d'acteurs qui sont mélangés. On retrouve Henry Flint, on trouve Dennis Johnson et toute cette bande autour de New York. Et donc ce sont ces premières pièces dites conceptuelles hein, que va abandonner par la suite Lamont et Young, qu'il écrit donc dans les années 60, ou par exemple pièce conceptuelle de 1960 numéro 5, voilà Lamont et Young et Marianne Zazila. Hop là. Donc, composition 1960 numéro 5, qui consiste, par exemple, à lâcher un papillon dans l'espace du concert et qui exemplifie, là, l'intérêt de ces musiciens et des artistes fluxus, plus généralement, pour une recherche circonscrite, là, je cite Douglas Kahn, de nouveau, circonscrite sur le son dans son état singulier, existentiel, élémentaire, se concentrant sur les cas limites de la production sonore et de l'audition, de la virginité des diverses intégrités du son en soi. Donc c'est de nouveau une recherche comme ça, du son en tant que son, du son en soi. Donc une limite de l'écoute, parce que c'est une écoute aussi qui vise le silence. Hein. Écoutez le battement d'un papillon. La pièce pouvant se terminer lorsque le papillon est sorti de la pièce. Mais pour la montée Jung, le papillon émet véritablement des sons. Simplement, ces sons, dans leur extrême délicatesse, eh bien, échappent d'une certaine manière à l'oreille humaine. Alors, à cette expérience limite dans l'écoute, s'articule une autre approche chez la montée Jung, qui est celle de l'écoute entendue en tant qu'immersion, l'écoute immersive. Au sens où, pour un compositeur comme la montée Jung, dès les années 60, ce qui va prévaloir, ça va être, il le dit en ces termes, d'entrer littéralement dans le son, entrer dans la matière sonore. C'est ce qu'il explicite notamment dans une conférence donnée en Californie, dans le cadre d'un workshop avec Terry Riley en 1960, où il rend compte de ses premières expériences. Et il le dit en ces termes, je le cite, « Si toutefois nous allons vers les sons tels qu'ils existent et voulons en faire l'expérience pour ce qu'ils sont, » on trouve là des termes très proches de ce qu'on a pu voir avec Schaeffer et Cage, « c'est-à-dire une autre sorte d'existence, alors nous pourrons en apprendre quelque chose de nouveau. Ces soirées, » donc il relate des concerts, des expériences qu'il a pu faire en concert, « ces soirées nous menaient en particulier à la découverte de sons nouveaux. Nous en trouvions beaucoup que nous n'avions jamais entendus auparavant. De même, avec ces nouveaux sons, naturellement, nous trouvions de nouvelles manières de les produire et nous abordions des sons qu'auparavant nous n'avions jamais écoutés aussi attentivement. Parfois, nous produisions des sons qui se prolongeaient au-delà d'une heure. Si c'était un son puissant, mes oreilles ne retrouvaient leur écoute normale qu'après plusieurs heures, et quand mon ouïe revenait lentement, c'était presque comme une nouvelle expérience, comme quand j'avais commencé à écouter le son. Ces expériences étaient très enrichissantes et aident peut-être à expliquer ce que je veux dire quand je dis, et je le dis souvent, que j'aime entrer dans le son. » Donc ce sont des expériences... Ce sont des expériences de nouveau avec des volumes très élevés, hein, chez Cage, c'est notamment dans le théâtre La musique éternelle. L'immersion se passe par le volume sonore. Je vous fais écouter un morceau. Qui là est un enregistrement plus tardif de 84 de Second Dream. Alors, on ne peut pas l'écouter en entier, mais qui traduit cette immersion progressive, puisque l'enregistrement dure 1h20. s'arrête ici. Donc ça, il faut l'entendre dans l'expérience que pouvait mener la montée Jung à un volume beaucoup plus élevé, mais c'est des choses qu'on va retrouver hein, dans toute l'histoire des musiques expérimentales. Cette expérience du volume, notamment de l'immersion dans la matière sonore, jusque dans le harsh noise actuel. Ou un peu avant, je pense à un compositeur comme Phil Niblock, par exemple, hein, qui dans ses concerts se balade toujours avec un appareil pour mesurer les décibels, pour avoir vraiment cette puissance sonore. De nouveau, là, avec des longs sons tenus qui permettent l'immersion dans le son. Alors peut-être qu'on peut écouter un autre petit extrait, justement, de Phil Niblock. Il s'agit d'une pièce de 78 qui s'appelle « Trombone Piece ». Donc avec toujours ce même processus de composition hein, chez Phil Niblock qui vise aussi la recherche microtonale où il enregistre un interprète, en l'occurrence un tromboniste, et il multiplie les couches comme ça en les pitchant légèrement pour avoir des altérations, les superpose pour avoir des altérations, des frottements de fréquence, des altérations microtonales. S'ajoute et on rentre dans cette. Il y a peut-être un petit problème sur celle-ci, non? Parce que normalement il n'y a pas ce. Ah oui, c'est le. Ouais. C'est la structure qui dit. Ok. Alors, autre forme d'écoute, dans la continuité d'un petit peu de ce panorama, une écoute que je qualifierais de spatiale. lui, il en parle comme d'écoute attentive, mais dirigée vers l'espace, avec la figure du compositeur américain Alvin Lucier. En 1965, Lucier compose une première pièce qui va être décisive pour la suite. C'est le retour à la composition de Lucier. Il était déjà compositeur auparavant, mais il va y avoir une sorte de crise esthétique au début des années 60, avec un voyage à Rome pour finir ses études. Et là, il arrête quasi la composition. Il ne sait pas trop quoi faire. Il découvre Cage, il découvre plein de choses. Et il ne sait pas comment trouver sa propre voie. Et il rentre ensuite aux États-Unis, puisqu'on lui a proposé un boulot comme directeur de chef de chorale à la Brandeis University, et qui va là aussi le mettre directement en contact avec toute la scène new-yorkaise, puisqu'il va commander des pièces pour sa chorale à Morton Feldman, Erborn, des compositeurs comme ça. Et donc en 65, il crée véritablement sa première pièce qui va marquer finalement cette approche si particulière qu'on va retrouver dans toutes ses compositions ultérieures, qui est Music for Solo Performer, qui est une pièce pour percussion et onde cérébrale. Onde cérébrale énormément amplifiée. Alors, l'utilisation d'onde cérébrale dans la création musicale, c'était quelque chose qui était dans l'air du temps, au milieu des années 60. Hein, on peut penser notamment aux travaux de Richard Teitelbaum, au même moment, qui utilise un système spécialement fabriqué par Moog. Et concernant Lucier, l'idée lui vint, quant à lui, alors qu'il était professeur à l'université de Brandeis, et qu'il fit la connaissance de l'ingénieur Edmond Dewan, qui travaillait à ce moment-là sur les ondes alpha dans le cadre d'un programme de recherche pour la Air Force sur le problème des crises d'épilepsie chez les pilotes de chasse. Et il a prêté comme ça son matériel d'expérimentation à Alvin Lucier pour qu'il puisse en faire une pièce. Alors, comme je disais, à l'époque, Alvin Lucier ne savait pas trop quoi faire en musique. Et donc Dewan va lui proposer comme ça de concevoir une pièce, une utilisation musicale de ces électrodes. Et Alvin Lucier va commencer à travailler avec ça. Alors, il s'agit de quoi précisément? Qu'est-ce que c'est que ces ondes alpha? Bien, ce sont des fréquences aux alentours de 8 et 12 Hz, c'est-à-dire des fréquences en deçà du seuil audible hein, de l'oreille humaine, puisque l'oreille humaine entendrait grosso modo entre 20 Hz et 20 kHz, du moins chez les jeunes personnes, puisque ce spectre se réduit en vieillissant. Et ces ondes alpha inaudibles à l'oreille humaine sont plus facilement générées lorsqu'on est au repos, dégagées de toute activité mentale importante. Par exemple, quand on garde les yeux fermés pour se concentrer ou pour ne pas être distrait par la vision. Donc, de nouveau, en fermant les yeux, une écoute comme ça, ce recueillement de l'écoute, cette discipline de l'écoute que j'évoquais précédemment. Donc c'est un état de repos, voire un état de méditation. Et dans la pièce de Lucier, ces ondes sont captées via des électrodes placées sur les tempes de l'interprète, puis transmises à un système d'amplification mis en série, différents amplificateurs, qui redirige donc le signal vers un ensemble de haut-parleurs placés à proximité d'instruments de percussion. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît à chaque fois, ça. Ah oui, je vais couper Internet, ça va être plus simple. Ouais. Parce que je ne sais pas ce que c'est, ça. Je n'ai pas de bruit. Voici. Ah, on ne voit pas très bien. Voici le plan, le schéma de la partition. Des partitions toujours qui sont comme des plans d'installation hein, chez Lucier. Et donc, ces haut-parleurs sont tous placés, qui diffusent les ondes cérébrales de Lucier à haut volume, eh bien, sont placés à proximité de différents corps résonnants. Ça peut être, il y a des caisses claires. Alors normalement, on voit mieux, mais vous avez tous les instruments qui sont indiqués ici. Des tombasses, des gongs, des cymbales, des timbales de différentes tailles, et même un piano, qui sont donc excités, mis en vibration par la diffusion inaudible des haut-parleurs. Finalement, c'est le souffle des haut-parleurs. Alors, je vous fais écouter un extrait de cette pièce. Donc je vous montrerai, si vous voulez, sur mon écran, parce qu'elle apparaît très bien, la partition tout à l'heure. Mais là, il faut donc imaginer le compositeur endormi dans un coin, les yeux fermés, avec ses électrodes, et puis ses instruments qui s'activent comme par magie, petit à petit, comme ça, sur scène, et qui sont agencés, bien entendu, sur la scène, à la manière d'une scénographie. Alors, d'une certaine manière, on a affaire ici à une boucle. On va retrouver plus tard dans l'intérêt de Lucier pour le feedback, sauf qu'il ne s'agit pas d'une boucle électroacoustique, mais d'une boucle auriculaire, une boucle de l'écoute. En effet, si les musiciens ont disparu de la scène de concert, laissant sur place des instruments devenus orphelins, c'est pour mieux faire entendre la mise en boucle de la chaîne d'écoute qui s'y produit. Alvin Lucier ferme les yeux pour ne pas être distrait, mais ses oreilles, elles, sont toutes ouïes. Écoutant, finalement, qu'est-ce qu'écoute Lucier ? Eh bien, il écoute le silence d'un public médusé par ce théâtre de fantômes. C'est-à-dire qu'il écoute l'écoute même des auditeurs qui lui font face. Autrement dit, son écoute, de leur écoute attentive, de son activité cérébrale, produit les ondes qui ramène peu à peu à la vie les instruments muets. C'est une rétroaction, hein, tout simplement, qui apparaît ici, comme source d'une interaction, une interaction d'écoute, entre une situation, un espace et les corps en présence, le public, le compositeur endormi. C'est un peu comme si on avait affaire à une ronde de l'écoute, et c'est comme si ce serait cette ronde qui produirait la musique, redonnant vie donc aux instruments abandonnés. Alors, la première pièce où apparaît un réel feedback, une véritable boucle comme ça, d'électroacoustique, mais qui renvoie à la boucle d'écoute, on va le voir, dans l'œuvre de Lussier, c'est une pièce de 75, 10 ans plus tard, qui s'intitule Bird and Person Dining. Alors, 75, c'est une année extrêmement importante pour le feedback, hein, puisque c'est aussi l'année où paraît Metal Machine Music de Lou Reed, qui est une pièce intégralement créée pour feedback. Alors, pour cette pièce, eh bien, je vous explique un petit peu le processus. Pour Thanksgiving, Lussier reçoit un cadeau anonyme par la poste, un petit oiseau à accrocher dans le sapin de Noël et qui émet des gazouillements électroniques. Une petite boule comme ça, qu'on accroche dans le sapin et qui imite le son d'un oiseau. Donc en réalité, c'est Douglas Kahn qui était son étudiant à cette époque-là et qui lui a envoyé ce petit gadget. Alors, ne sachant pas trop quoi en faire de cet oiseau, Lussier l'emmène dans son studio et décide d'écouter le chant de l'oiseau électronique à l'aide d'un microphone binaural. Ce microphone on place au niveau des oreilles et qui restitue l'écoute de l'oreille, des oreilles. Donc un double microphone qui reproduit l'image acoustique stéréophonique de l'écoute humaine. Et Lussier, avec ce microphone binaural, arpente son studio pour scruter la propagation des sons émis par l'oiseau électronique dans l'espace. Comment ces sons, ces gazouillements vont se propager dans l'espace. Mais voilà, c'est ce qu'il explique dans un de ses textes. Il avait ce jour-là réglé le volume de son amplificateur un peu trop fort et un Larsen, un ray de feedback, va parcourir l'espace. Alors, Lussier entend ça, court vers la console pour réduire l'amplification et il remarque, je le cite, que de beaux motifs d'interférence se produisaient entre les sons de l'oiseau électronique et les raies de feedback. Ce fut un accident, et ainsi j'appris ensuite à contrôler le feedback et à chercher des emplacements dans la pièce où le feedback est tel qu'il produit ces belles images fantômes. Alors, en réalité, les effets sont pluriels, puisqu'il s'agit aussi bien des images fantômes de l'oiseau électronique dans l'espace que des fréquences résultantes, d'effets propres à l'oreille interne, ou encore d'effets hétérodynes, qui donnent le nom à la pièce et qui correspondent à ce qu'on appelle un effet hétérodyne, c'est correspondent au battement qu'on entend lorsque deux fréquences rapprochées sont émises simultanément et qui va utiliser énormément Lussier par la suite dans ses pièces. Donc là, le principe de Bird and Person Dining est mis au point. Il s'agit pour l'interprète de se déplacer dans l'espace avec des microphones réglés en feedback et de jouer les effets acoustiques produits par la rencontre et la diffusion dans l'espace du Larsen et de l'oiseau électronique. Alors, je vous fais écouter la pièce. Ils ont un extrait, qui dure 23 minutes. ici. Alors, en réalité, c'est une triple relation à l'espace qui se joue ici et où intervient donc une écoute proprement spatiale, c'est-à-dire prise dans sa spatialité et son itinérance, prise dans sa mobilité même. Tout d'abord, triple relation, tout d'abord, parce que, comme l'indique le compositeur en rendant compte de différentes interprétations de Bird and Persing Dining, l'acoustique de l'espace influence directement les sons produits et donc influence directement l'écoute. Ça, c'est ce que révélait déjà sa pièce la plus connue, pièce majeure de 1970, qui est « I'm sitting in a room ». Mais dans le même temps, et articulé à ce premier rapport, le son produirait lui-même de l'espace, marquant des zones et définissant des territoires. Ça, c'est ce que précise la partition elle-même. L'interprétation de Bird and Persing Dining consiste en effet à cartographier, c'est le terme qu'emploie Alvin Lucier, à cartographier les différentes hauteurs et intensités de l'espace sonore produit, tout en modulant les raies de feedback. Mais à ces deux dimensions, le son produisant de l'espace et l'espace influençant l'écoute, eh bien, à ces deux dimensions s'adjoint enfin celle liée à la présence et au mouvement même du sujet percevant, en l'occurrence l'interprète, dont la position spatiale infléchit ce qui se donne à l'écoute, par une sorte de feedback auriculaire. C'est le déplacement de l'auditeur qu'est Alvin Lucier qui produit les modulations du son. Douglas Simon, qui évoque cette pièce dans un entretien avec Lucier, résume ce qui se joue en ces termes. Il dit à Lucier, je le cite, « Ce que vous faites, c'est renvoyer votre propre perspective sonore, votre propre écoute, dans l'espace. Elle devient une nouvelle fois une partie intégrante de l'espace. » Alors, chez Lucier, ce rapport à l'espace, néanmoins, c'est principalement l'interaction phénoménologique, une nouvelle fois, de ces relations, de ces trois relations qui intéressent donc le compositeur. Finalement, c'est le nœud acoustique que tissent ces relations dans leur entremêlement. C'est donc bien toujours le son, compris en tant que son, qui mobilise l'écoute de Lucier. Et d'ailleurs, il le précise de manière très spécifique dans un texte où il aborde cette pièce, je le cite, « Dans cette œuvre, comme dans d'autres, l'interprétation est moins une affaire de production des sons que d'écoute attentive. » Finalement, l'interprétation, c'est l'écoute elle-même. Et en l'occurrence, une écoute mobile, prise dans la mobilité. Donc là, on trouve des choses aussi très proches, par exemple, de ce qu'on a pu voir chez Cage et d'autres. Alors, on pourrait continuer comme ça l'itinéraire panorama comme ça des conceptualisations des formes d'écoute. On en a vu quelques-unes. J'arrête là pour l'instant, je vais reprendre par la suite pour aborder une analyse peut-être plus conceptuelle de ce qui se joue ici. Alors, ces écoutes débordent bien entendu largement les seuls musiciens que j'ai pu évoquer. C'est quelque chose de très courant dans les musiques expérimentales et les arts sonores. Ou d'ailleurs, le mot musique, et là ça va être c'est important dans les écoutes qui se jouent, le mot musique lui-même peut poser problème. Et où on préfère généralement parler de son plutôt que de musique. On écoute des sons, on n'écoute pas de la musique, on écoute des sons. C'est-à-dire que c'est un langage. Quand on regarde les textes des différents compositeurs, c'est toujours un langage assez neutre qui est privilégié, hérité ou inspiré des sciences et de l'acoustique, ou bien différemment, chez d'autres, qui peut se draper aussi de phénoménologie. Et ce glissement dans les discours de la musique au son n'a rien d'anodin et témoigne finalement d'une communauté d'intérêts ayant placé au centre de ses préoccupations une concentration sur le matériau, pour ses qualités propres, et travaillant, dès lors, avec une attention soutenue, à une écoute qu'on pourrait qualifier, c'est un terme que je reprends à Martin Kaltenecker, une écoute esthésique. C'est-à-dire une écoute qui scrute les sons. Une écoute esthésique. Alors, Kaltenecker ne traite pas du tout de ses compositeurs quand il parle de cette écoute. Il parle de l'écoute esthétique à propos de l'écoute qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle et qui correspond à une approche, je le cite, qui recouvre une tendance physique écoutez la physicalité des sons, et une tendance mystique. Alors, c'est une écoute qui apparaît d'abord, dans sa formulation, qui apparaît d'abord en littérature. Ça, je cite de nouveau Kaltenecker, à travers une nouvelle attention portée aux sons isolés, aux bruits, aux paysages sonores. Cette écoute esthésique se fixera souvent sous forme de notations et d'observations qui découlent d'une attention soutenue où la froide concentration du physicien se confond finalement avec une mystique. Celle-ci crédite ce qui, en deçà de la forme, la matière, le son brut, ce qui frappe, de témoigner d'un au-delà mystérieux. Et donc Kaltenecker, musicologue, ajoute que cette écoute préfigure par ailleurs l'attitude phénoménologique au sens où l'entendra le courant philosophique qui se développe à la fin du 19e avec Husserl. Donc là, on pense justement dans cet héritage, dans ce lien, de nouveau à ce que pouvait traduire Pierre Schaeffer avec l'écoute réduite. Donc une écoute esthésique. Mais en même temps, une communauté d'écoute ne se définit, et une communauté de manière générale, ne se définit jamais simplement par ce qui la réunit, elle se constitue au moins implicitement tout autant, sinon plus, autour de ce qu'elle rejette et prend soin de mettre à l'écart, en l'occurrence, la part sociale des sons qui sont célébrés dans l'écoute. Finalement, sous couvert d'un langage précis aux résonances acoustiques, s'attachant à rendre compte d'un intérêt esthétique à travers l'usage de catégories et de paramètres concrets, c'est une volonté d'abstraction qui se fait jour, même dans la musique concrète. Une volonté d'abstraction qui hypostase le son comme phénomène isolé, qu'il convient d'étudier dans la pureté d'une scène silencieuse, ou du studio, du laboratoire, du studio compris comme laboratoire sonore. Et d'ailleurs, à ces discours, on a pu s'en rendre compte à travers certains extraits, à ces discours s'associe le choix de matériaux spécifiques. Par exemple, dans les musiques expérimentales, c'est quelque chose de très courant, l'usage de sine waves, de sinusoïdes, qui est par exemple le matériau de prédilection d'Alvin Lucier, et qui est le symbole par excellence d'une musique qui s'épure en phénomène sonore. Alors, bien entendu, on ne peut pas superposer tous ces discours, comme je disais. Ils ne sont pas équivalents, ils ne sont pas interchangeables. Il faut tenir compte de leurs différences. Mais en tout cas, on peut remarquer qu'il s'agit toujours d'écouter les sons en tant que sons, d'essayer de les accueillir pour eux-mêmes, c'est-à-dire comme phénomènes sensibles, dégagés du poids de l'histoire et de toute influence culturelle, des sons qui ne seraient que des sons et rien d'autre, pour reprendre une expression de Cage. En effet, que l'écoute se veuille réduite, immersive, attentive, ouverte, profonde, active, eh bien, il s'agit, dans chaque cas, dans une certaine mesure, de faire le vide, dans l'espoir d'accéder à une réalité du son en soi, dépendant in fine, on va y venir, d'une croyance sans laquelle cette écoute ne pourrait exister. Que l'on réduise l'écoute ou qu'on ouvre l'écoute, le mouvement du diaphragme dépend de la vibration du fétiche. Finalement, hypostasier l'autonomie des sons, considérer cette autonomie comme une réalité, conduit à la formation d'un caractère fétiche. Alors, l'auscultation des phénomènes sonores, comme je disais, apparaît dans de nombreux discours qui alimentent les réflexions sur l'expérimentation dans les années 60. C'est un peu comme si les musiciens cherchaient à s'alléger du poids de la culture, comme en montgolfière, on lâche du lest, en vue d'accéder, pour prendre un autre terme, au son pensé en tant qu'informel. Ça, c'est quelque chose que conceptualise notamment le compositeur anglais Cornelius Cardew. Il le dit en ces termes, je le cite, « Le son informel a un pouvoir sur nos réactions émotionnelles que la musique formelle n'a pas, dans le sens où il agit de manière subliminale plutôt qu'à un niveau culturel. » De nouveau, cette séparation. Donc, ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on observe au-delà des musiciens qui vont thématiser ces écoutes, au sens où, dans l'histoire de la musique, à l'issue du romantisme tardif, mais aussi du modernisme de la première moitié du XXe siècle, Et au regard, d'ailleurs, c'est sans doute, on va y revenir, mais sans doute pas étranger à ce phénomène, au regard de la montée en puissance des industries culturelles, notamment dans la musique, ces musiciens expérimentaux de l'après-guerre, eh bien, vont chercher ainsi à dégager, d'une certaine manière, leur création de tout fonctionnalisme intra- et extra-musical. Alors, pour autant, si un réel discours cherchant à focaliser l'attention poétique sur le matériau musical lui-même se met en place, comme on le voit là, dans les années 50, 60 et au-delà, au sein des musiques expérimentales et des arts sonores, et vis-à-vis desquels, finalement, les artistes contemporains, là, s'intéressant aux seuls sons qui peuvent se réclamer de tels discours, résonnent comme de lointains échos, c'est toujours donc le vœu d'une musique pure, tout comme la concentration là, que requiert spécifiquement l'écoute. Eh bien, ces rapports-là débordent, bien entendu, largement les préoccupations des expérimentaires, toutes générations confondues. Et se retrouve même, comme je l'évoquais avec Martin Kaltenecker, pour l'écoute musicale, à différentes époques, selon des prérogatives et des enjeux nécessairement propres à chaque contexte socio-historique. Ainsi, d'une certaine manière, en dépit de la rupture que les musiciens expérimentaux, si on prend cette écoute dans sa dimension historique, en dépit de la rupture que les musiciens expérimentaux prétendent consommer, c'est bien plus des filiations insoupçonnées, car culturelles, qui favorise l'avènement de positions considérées comme originales, de nouvelles postures d'écoute. C'est-à-dire que cette écoute des sons en tant que son ne vient pas de nulle part. On a vu qu'il y a toute une histoire qui commencerait au moins à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est d'ailleurs sans doute le principal écueil des musiciens voués au phénomène sonore que d'oublier que ce type de discours et centre d'intérêt est lui-même construit historiquement. De même que le son prétendu objectivé, là je cite Cardieu de nouveau, l'histoire n'est pas l'apanage de la musique, le son en a aussi une. Eh bien, donc de même que le son prétendument objectivant, manquant ainsi, ces musiciens, manquant d'appréhender avec davantage de distance critique le rapport au son qu'ils entendent explorer. Sinon, institué dans leur écoute, dans leur pratique, et qui répond en définitive d'une communauté de codes, une communauté sémiotique, pour reprendre un concept de Foucault, où se retrouvent les musiciens, certes, mais aussi les auditeurs, et les musiciens devenus auditeurs. Donc l'avènement de ce que j'appelle un caractère fétiche. Mais encore faut-il peut-être préciser maintenant ce qui se joue derrière ce concept de fétiche, de fétichisme. Donc, très rapidement, je vais faire une petite histoire un peu là du concept de fétichisme. Alors, l'application du concept de fétichisme, c'est quelque chose de relativement tardif dans le domaine esthétique, dans le domaine des arts. Mais son usage extra-artistique remonterait, lui, à la nuit des temps, ou du moins à celui de la colonisation portugaise de l'Afrique de l'Ouest à la Renaissance. Là, je reprends notamment les études de William Pitts, qui analyse cette apparition du concept de fétichisme. Et il nous dit « La formation du fétiche comme concept nouveau n'appartient à aucune société spécifique, discrète, mais trouve son origine dans un brassage multiculturel sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest au XVIe et XVIIe siècle. » Alors, c'est un concept issu d'une étymologie complexe, où s'entremêlent notamment le latin « fatitius », qui veut dire « fabriquer », le portugais « feitiço », « sorcellerie », ça veut dire, ou le « pidgin », « feitiço ». Le terme fétichisme, nous, dans son histoire, aussi bien des préoccupations d'ordre économique, c'est les échanges qui pouvaient se faire avec les colonies, que la désignation des pratiques magiques, la théorisation des croyances, ou encore le problème de l'idolâtrie dans la théologie chrétienne. Donc ça arrive un petit peu après. Mais l'origine même du mot, qui va connaître un succès certain dans les sciences humaines, de Marx à Freud, laisse entendre un sens qui dérive de la croyance frauduleuse à l'économie et au désir. Et là, l'esthétique, la théorie esthétique, qui aime bien les métaphores, ne va pas manquer de s'en emparer au XXe siècle, en reprenant à la fois le processus de mystification à l'œuvre dans le fétichisme et la fonction commerciale du fétiche pour la rapporter aux œuvres. Alors, ce glissement dans le domaine des arts, qui nous intéresse plus particulièrement, c'est celui que réalise Adorno dans un essai de 1938, assez célèbre, qui s'intitule « Le caractère fétiche dans la musique et la régression de l'écoute », qu'il a écrit lors de son exil américain, ayant fui l'Allemagne nazie. Alors, le philosophe, dans cet essai, s'attache à appliquer aux marchandises culturelles, en l'adaptant, l'analyse du fétichisme des marchandises dans l'économie capitaliste, développée initialement par Marx en 1867, dans un passage fameux du Capital, où Marx décrit des objets habillés d'une âme marchande qui se mettent subrepticement à danser sous les yeux ébahis des ouvriers. Je le cite, ce petit passage. « Ce qu'il y a de mystérieux dans la forme marchandise consiste donc simplement en ceci qu'elle renvoie aux hommes l'image des caractères sociaux de leur propre travail comme des caractères objectifs des produits du travail eux-mêmes, comme des qualités sociales que ces choses posséderaient par nature. Elle leur renvoie ainsi l'image du rapport social des producteurs au travail global comme un rapport social existant en dehors d'eux, entre des objets. » Et Marx de prendre l'exemple du spiritisme avec une table qui serait une marchandise qui se mettrait à tournoyer sur elle-même. Dans toutes les théories fétiches, on va retrouver ça aussi chez Adorno, le tournoiement des objets sur eux-mêmes comme habité d'une âme, un peu comme ces soucoupes qui pouvaient tournoyer dans l'étude aux casseroles de Schaeffer, va être assez importante. Alors, la théorie du fétichisme qu'élabore Adorno à l'endroit des marchandises musicales, on s'en doute, n'aurait pas pu être conceptualisée de la sorte par Marx, puisque pour que la marchandise passe des biens de production aux biens culturels, encore faut-il que les inventions suivent. Et en ce qui concerne la musique, ce sera bien entendu le phonographe d'Edison, qui marque en 1877, qui marque l'entrée de la musique dans les industries culturelles naissantes. Mais en même temps, la théorie d'Adorno déborde le seul héritage marxiste et distingue dans le champ des œuvres culturelles, dans le champ des œuvres d'art, deux sortes de fétichisme. Un premier fétichisme qu'il intitule « fétichisme de l'hétéronomie ». Donc hétéronomie, dépendance à l'autre, et qui correspond, là, du point de vue des marchandises, à peu près à l'analyse que pouvait faire Marx, mais transposée simplement dans le domaine culturel. C'est-à-dire que le fétichisme des marchandises devient proprement celui des marchandises musicales, que sont le disque, les appareils audio, les places de concert, mais aussi les instruments de musique, et voir les artistes, les musiciens transmués en stars, qui sont aussi dès lors des marchandises. Alors, il diffère, ce premier fétichisme, il diffère finalement du fétichisme du son en soi, qui va m'intéresser, qui nous intéresse ici, mais il partage néanmoins avec celui-ci un même procès de mystification volontaire, et peut par ailleurs concerner, toute proportion gardée, certains aspects de l'économie des arts sonores et des musiques expérimentales, qui n'échappent pas en tant que tel au fétichisme de l'hétéronomie. Donc le fétichisme de l'hétéronomie, c'est ce moment, dans la philosophie d'Adorno, tel qu'il est conceptualisé dans la philosophie d'Adorno, c'est ce moment singulier dans les processus de production et de consommation, où la valeur d'échange de la musique se substitue à sa valeur d'usage. Et tel que l'analyse Adorno, qui s'exemplifierait notamment dans la formation du succès. Succès qui fonctionne en spirale. Plus vous avez du succès, plus vous aurez de succès. Et donc, les conséquences directes de ce premier fétichisme sont, selon Adorno, un renforcement de la domination des masses et une réification pure et simple de la musique comme objet, et dès lors comme marchandise, qui conduit, selon Adorno, et c'est la deuxième partie de son essai, à une régression de l'écoute. Et une régression de l'écoute elle-même, nous dit-il. Le second, alors, ce premier point est déjà important, puisqu'il nous montre comment, selon Adorno, le fétichisme créerait une régression de l'écoute, là où les artistes, dans le fait d'hypostasier une autonomie des sons produise une écoute critique, une écoute différenciée, en tout cas. Je vais revenir sur cette articulation. Second fétichisme, théorisé par Adorno, c'est le fétichisme dit de l'autonomie. Fétichisme de l'hétéronomie et fétichisme de l'autonomie. Là, Adorno s'écarte de l'analyse marxiste et ce fétichisme apparaît plus ambivalent. Il ne concerne plus tant les biens culturels compris comme simples marchandises que les œuvres d'art saisies dans leur fonctionnement propre. Ce fétichisme est ambivalent car il mérite d'être critiqué pour la mystification qu'il occasionne et son caractère idéologique, comme le premier fétichisme. Mais à la différence du fétichisme de l'hétéronomie, ce fétichisme de l'autonomie posséderait aussi, selon Adorno, une dimension critique intrinsèque en étant constitutif, nous dit-il, du contenu de vérité des œuvres. Contenu de vérité des œuvres qui est, là je cite Adorno, également leur vérité sociale. Et qui a pour condition leur caractère fétichiste. Donc à travers ce fétichisme de l'autonomie des œuvres, dégagée de la sphère sociale, les œuvres s'émanciperaient, finalement, selon Adorno, de la seule fonction de divertissement. S'émanciperaient de la domination du règne de la marchandise. Adorno utilise cette belle formule, je vous la cite, « Seul l'unique, l'inutile représente la valeur d'usage étiolée. » Autrement dit, seul l'inutile représente la valeur d'utilité étiolée. Donc, à travers ce fétichisme de l'autonomie, les œuvres ne se laisseraient pas réduire au statut de marchandise. L'œuvre, en tant que telle, échapperait au dictat de la valeur d'échange et deviendrait par la même critique du principe autoritaire de la fonctionnalisation. En somme, l'autonomie dont les œuvres se prévalent, en dépit de sa mystification, néanmoins présente, aurait des vertus sociales faisant défaut aux marchandises culturelles. Mais en même temps, avec Adorno, un raisonnement dialectique ne peut pas s'arrêter là. L'autonomie, telle que la décrit Adorno, si elle est exacerbée, risque dans le même temps de couper l'œuvre de sa réalité sociale. Si les compositeurs se complaisent dans l'autonomie des sons, dans l'autonomie des œuvres, eh bien, ils se coupent de la réalité sociale, condamnant en retour l'effectivité de la critique supposée. D'une certaine manière, l'œuvre se complaît dans un ghetto et devient inoffensive. Et on a pu le voir dans les différents discours que j'ai pu citer des musiciens, combien il était important pour eux de se couper de cette réalité sociale, de cette dimension culturelle des sons. Alors, si le développement de ce second fétichisme concerne initialement à l'endroit de la musique les œuvres de la modernité, chez Adorno, dans sa conceptualisation, et plus particulièrement tel qu'il l'énonce dans les différents textes où ce concept apparaît, c'est plutôt l'avant-garde des dodécaphoniques dont il s'agit, ce pronostic adornien pourrait, dans une certaine mesure, s'appliquer aux musiques expérimentales et aux heures sonores, dans leur tendance historique à osciller entre l'autonomie critique et l'autonomie ghettoïsée. Donc ce second fétichisme, pour historique qu'il soit, n'est pas complètement étranger, et même explicite d'une certaine manière, celui qui se révèle dans le plaisir des sons, de l'écoute des sons en tant que son. Sauf que ce n'est pas dans ce second cas, dans l'écoute des sons en tant que son, plutôt l'œuvre dans son entièreté qui est saisie, a priori dans sa spiritualité, que les composants atomisés de son matériau, les sons eux-mêmes. Alors, là surgit donc le rapport fétiche qu'introduit directement, d'une certaine manière, l'écoute différenciée, l'écoute critique permise par l'écoute des sons en tant que son. Et en même temps, il ne faut pas faire un faux procès aux artistes et aux musiciens. Au sens où, d'une certaine manière, c'est bien la croyance de cette autonomie qui permet la réalisation des œuvres. Ça, c'est ce que nous dit, par exemple, William James, philosophe américain qui a à l'origine avec Peirce du pragmatisme, dans sa théorie de la religion, de la croyance plus précisément, William James nous dit « La foi en un fait peut aider à créer le fait. » Alors, en appliquant ça à ce qu'on vient de dire, il ne s'agit pas de penser que la croyance en un monde des sons en soi instituerait d'emblée l'existence de ce monde, mais plutôt de considérer qu'une telle croyance s'accompagne d'œuvres qui, elles, sont réelles et qui n'auraient pu voir le jour autrement et qui, en tant qu'œuvres, s'ouvrent à leur tour à des expériences réelles, produisent des expériences chez l'auditeur. Dès lors, ce rapport à la croyance, il faut le saisir dans sa duplicité. Hein. Ça, c'est quelque chose que je reprends par exemple à Bouvray, ce qui ne traite pas du tout ça, dans ses ouvrages récents aussi sur la théorie de la croyance. La question, et là il se place dans un héritage de James direct, la question est moins de savoir d'où nous est venue la croyance que de savoir où elle va et où elle nous mène, ce qu'elle produit. Et là, en l'occurrence, ce qu'elle produit en tant qu'œuvre. Alors, je reviens un petit peu sur le panorama des écoutes. Après ce premier moment de concept, mais on va revenir sur ces points. Pour autant, cette écoute phénoménale, cette écoute des sons en tant que son, pour dominante qu'elle soit dans certains champs des musiques expérimentales et des arts sonores, il faut bien avoir à l'esprit aussi qu'elle ne représente pas la seule attitude possible à l'égard des sons. Une autre manière d'envisager les choses se trouve par exemple assez admirablement synthétisée par une petite formule de Luc Ferrari, qui dit, ce qu'il souhaite faire dans sa pratique, faire entrer la société dans le son. Donc là, on voit que c'est le mouvement inverse. Donc, un autre type d'écoute que j'appellerais, pour l'instant, l'écoute du champ social. Avec l'ambiguïté, l'homonymie qui peut se jouer dans le champ. Donc, derrière cette phrase, faire entrer la société dans le son, phrase qui a un peu une allure de slogan, finalement, Ferrari ouvre une brèche dans les postures d'écoute qu'on a pu évoquer, qui sont finalement comme les différents pôles d'un même monde. C'est toujours le monde des sons en tant que son. Alors, en même temps, Ferrari, quand on écoute sa musique, quand on lit les textes, on se rend bien compte qu'il ne refuse pas le caractère abstrait des sons. Mais il appelle ici à considérer également la possibilité d'entretenir une autre relation à l'expérimentation sonore conduite dans l'écoute qui ne renierait pas la dimension critique et qui surtout, en premier lieu, ne refuserait ni les déterminations socio-historiques du matériau, ni l'importance de la dimension culturelle de l'écoute musicale. Comment notre écoute musicale, pensée même de l'écoute musicale, comme on a pu le voir avec l'écoute esthésique qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, est nourrie d'une histoire. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit historiquement. Et ça, c'est particulièrement à l'œuvre dans les travaux de Ferrari. Donc ne pas nier les déterminations socio-historiques du matériau, ni l'importance de la dimension culturelle de l'écoute musicale. Je vous cite Ferrari, qui parle de cet aspect. Le son, par nature, est abstrait, mais il est relié à toutes sortes de choses qui ont affaire avec la réalité, soit directement, soit indirectement. Le créateur, l'artiste, n'est pas en dehors de la société. Et là, c'est précisément la rupture entre Ferrari et Schaeffer. Puisque Ferrari fait partie de ses premiers disciples de Schaeffer, mais il va y avoir une rupture à ce moment-là quand Ferrari commence à affirmer ce genre de choses. Donc Ferrari rejoint ici, avec ses propres mots, la position d'Adorno, que j'évoquais précédemment, concernant finalement la sédimentation sociale du matériau musical. Tout matériau musical serait sédimenté par le social, par la culture, y compris l'écoute qui entend écouter les sons en tant que son. Sauf que Adorno répondrait à Ferrari qu'il n'est pas nécessaire de faire entrer la société dans le son, puisque elle s'y trouve en réalité déjà, quoi qu'on fasse. Mais plutôt, selon Adorno, il s'agirait de reconnaître la présence de ce champ social afin d'y interagir, jusque dans l'écoute dit autonome, jusque dans le fétichisme de l'autonomie. Je cite Adorno, là, dans sa théorie esthétique, dernier ouvrage, ouvrage posthume d'Adorno, « Les exigences du matériau à l'égard du sujet proviennent plutôt du fait que le matériau lui-même, c'est de l'esprit sédimenté, quelque chose de socialement préformé, et à travers la conscience des hommes. Ayant la même origine que le processus social est constamment imprégné de ses traces, ce qui semble simple automouvement du matériau, l'autonomie, évolue dans le même sens que la société réelle, même là où les deux mouvements s'ignorent et se combattent. » Donc, à travers cette écoute, devenue consciente dans le processus de création lui-même, il s'agit, à l'instar de Ferrari, d'interroger le monde et de s'interroger sur le monde, d'interroger l'écoute musicale à l'œuvre dans l'écoute du monde. Donc ce monde qui porte les sons, afin précisément d'y développer une écoute critique. Mais on pourrait dire une écoute critique comprise à son deuxième niveau. Il s'agit plus simplement de l'écoute différenciée que j'évoquais au départ. Ce serait une écoute critique qui part de cette écoute différenciée, mais qui prend en compte le fétichisme de l'autonomie à l'œuvre dans l'écoute des sons en tant que son pour faire intervenir le social dans l'écoute. En somme, il s'agirait de ne pas perdre de vue, dans cette écoute critique, les dimensions sociales, les dimensions culturelles du matériau convoqué, des sons eux-mêmes, voire les dimensions sociales et culturelles de la démarche du compositeur et de l'artiste. Mais plutôt, d'essayer d'expérimenter avec ces aspects-là, quitte, on va y revenir, à projeter aussi d'autres fétiches. Je vous passe deux petits extraits